Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Claire Servageon.
Bonsoir Charline, bon week-end et puis à lundi. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France avec ce soir le navigateur François Gabart. À 19h20 au téléphone sonne, pourquoi la musique nous fait du bien, qu'on la pratique ou qu'on l'écoute? On en parle à l'occasion de la fête de la musique ce soir, alors appelez-nous au standard de France Inter 01 45 24 7000. Mais d'abord le journal de 18h, bonsoir Hélène Roussel.
Bonsoir. Des fuites dans le bac, épreuve de maths ce matin pour les séries ES et L. Le sujet a tourné hier soir sur la messagerie privée WhatsApp. Quelques lycées de la région parisienne concernés. Pas de quoi repasser l'épreuve, mais le ministère va porter plainte, vous l'entendrez au début de ce journal. Politique de pression au maximum, États-Unis, Iran et le nerf de la guerre, la communication. Dans l'actualité encore, 200 blessés dans des manifestations en Géorgie. Que payent les riches en France? Bilan de l'IFI, l'ex-ISF. Premier jour d'audience aussi dans le procès David Gras, braqueur, converti et repenti. Et puis il y a de la musique dans l'air. La fête sur Inter et à l'Olympia ce soir. Enfin les orages avant la canicule, la météo complète à la fin du journal.
France Inter.
La hantise, tous les ans au moment du bac, c'est pareil, on craint la fuite de sujets à grande échelle, répandus à la vitesse d'un clic ou d'un tweet. Alors, on n'en est pas là, mais tout de même, il s'agit bien d'une fuite. Série L et ES concernées, les candidats passaient les maths ce matin, mais seulement 3 ou 4 lycées de la région parisienne seraient concernés. Quelques candidats donc pas suffisants pour faire repasser l'épreuve, mais suffisants pour porter plainte. Le numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale, Jean-Marc Huard, avait convoqué la presse cet après-midi.
Nous avons effectivement des suspicions de fuite qui concernent une zone géographique extrêmement limitée puisque c'est 3 à 4 établissements d'Île-de-France dans lesquels quelques élèves, quelques candidats auraient reçu par des réseaux privés et non pas par des réseaux sociaux les sujets en amont des épreuves. Comme toujours dans ces cas-là, nous avons déposé une plainte. Donc la plainte a été déposée cet après-midi. Il y a donc une enquête de police qui va s'ouvrir. Parallèlement à une enquête administrative, il s'agit de retrouver le coupable, celui qui est à l'origine de la fuite. Il s'agit également d'identifier les personnes qui auraient pu communiquer le sujet, l'envoyer sur des réseaux privés. Compte tenu des éléments dont nous disposons et le caractère extrêmement limité, nous ne prévoyons pas de faire repasser les épreuves pour l'ensemble des candidats. Ça nous semble suffisamment circonscrit et identifié pour pouvoir ne pas demander à tous les candidats de repasser l'épreuve de mathématiques.
Jean-Marc Huard du ministère de l'Éducation nationale avec Sonia Princet. Autre couac de ce bac, plusieurs erreurs se sont glissées dans les sujets des épreuves de maths encore. Une matrice d'adjacence au lieu d'une matrice de transition. Se référer à l'annexe 1 au lieu de l'annexe 2. Bref, rien de très gênant. Les candidats ne seront pas désavantagés, assure la rue de Grenelle.
Va-t-il y avoir la guerre? L'Iran bombardé, on est passé, Hélène, à un cheveu cette nuit.
Les avions de combat avaient décollé, les navires de guerre en position, mais au dernier moment, Donald Trump a appuyé sur le bouton stop. Le président américain explique cet après-midi qu'entre-temps, il a appris que ses frappes auraient fait au moins 150 morts. Quoi qu'il en soit, le message est clair. Les États-Unis veulent riposter après la destruction d'un de leurs drones. Une attaque américaine est imminente, à moins que l'Iran réduise ses ambitions nucléaires et limite son influence dans la région. Donald Trump évoque aussi un message envoyé cette nuit aux Iraniens et affiche une volonté de dialoguer. Mais à base de « c'est lui qui a commencé » de poker menteur, difficile de s'y retrouver. Aurélien Colli en direct de Beyrouth, l'Iran propose évidemment une toute autre version des faits.
Oui Hélène, pas encore de guerre mais déjà une guerre des nerfs et de la communication. Cartes et coordonnées GPS à l'appui, Washington affirme que le drone a été abattu alors qu'il n'était pas dans l'espace aérien iranien. Mais au-dessus du détroit d'Ormuz, cartes et coordonnées GPS à l'appui, l'Iran affirme le contraire en diffusant cet après-midi des images présentées comme des débris du drone repêchés dans ses eaux territoriales. Selon des sources américaines aussi citées par l'agence Reuters, Donald Trump aurait averti les Iraniens de frappes imminentes via le sultanat d'Oman la nuit dernière, mais selon l'agence France Presse qui cite elle le porte-parole du Conseil suprême de la sûreté nationale iranienne, aucun message, aucune mise en garde américaine n'a en fait été envoyé via Oman. Précaution à prendre donc pour toute information en provenance des deux camps. Dernière en date côté iranien, l'intrusion dans son espace aérien en plus du drone abattu d'un avion de patrouille américain avec 35 militaires à son bord que l'Iran s'est abstenu de neutraliser. aucune confirmation de la présence de cet appareil du côté de Washington, où le président Trump s'est contenté d'indiquer que sa réponse aurait été bien différente si le drone sans pilote abattu avait été un avion avec un équipage à son bord.
Merci Aurélien Colli, en direct de Beyrouth. À l'instant, les États-Unis demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Iran pour lundi prochain. Une zone en attendant qui devient risquée. Les États-Unis avaient déjà interdit à tous leurs avions de survoler le détroit d'Ormuz et le golfe d'Oman depuis la destruction du drone. Eh bien, le néerlandais KLM et l'allemand Lufthansa ont suivi aujourd'hui. Manifestants contre policiers, plus de 200 blessés. Mais que se passe-t-il en Géorgie? Dans ce pays du Caucase, beaucoup considèrent la Russie comme une puissance occupante. Et l'intervention hier d'un député russe dans leur parlement a beaucoup choqué la population. Depuis, il y a eu nuit blanche de manifestations et démission du président du parlement, Audrey Tison.
Oui, Sergueï Gavrilov n'était pourtant pas venu parler politique, plutôt culture, réunion internationale sur l'orthodoxie. Mais lorsque ce député russe monte à la tribune et prend la parole depuis la place du président du Parlement géorgien, l'image met le feu aux poudres. Manifestation devant le Parlement, jusqu'à 10 000 personnes derrière des banderoles. La Russie est un occupant. Référence à l'épisode de 2008, intervention militaire russe dans le nord de la Géorgie, dans les provinces séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud. Moscou proclame l'indépendance de ces deux provinces. De quoi tendre un peu plus les relations entre la petite République de Géorgie et l'immense voisin russe. Particulièrement remonté, certains manifestants ont tenté cette nuit de pénétrer dans le Parlement, protégés par les forces de l'ordre, échange de projectiles jusque tard dans la nuit. Devant le tollé, le président du Parlement géorgien décide donc de démissionner. Pas suffisant pour l'opposition, qui exige maintenant des élections législatives anticipées et la démission du ministre de l'Intérieur. Une nouvelle manifestation débute ce soir.
Et on suivra ça avec vous. Merci Audrey Tison. Des manifestations aussi qui se poursuivent à Hong Kong. Plusieurs milliers de personnes rassemblées pour réclamer l'abandon définitif du projet de loi d'extradition vers la Chine, un texte seulement suspendu pour l'instant. Et une fois de plus, les bureaux du gouvernement local à Hong Kong n'ont pas pu ouvrir, bloqués par les manifestations. Un viol collectif qualifié par la justice en première instance d'abus sexuel. Les cinq accusés remis en liberté provisoire. Manifestation monstre dans toute l'Espagne. C'était il y a un peu plus d'un an. Eh bien aujourd'hui, la meute, comme se surnommaient ces cinq hommes sur WhatsApp après avoir tout mis en ligne, a été condamnée à 15 ans de prison. La plus haute juridiction espagnole a repris le dossier et aggravé la peine.
Il est 18h07 sur France Inter, la suite du journal d'Hélène Roussel. Avec Hélène, le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui a fait un point d'étape sur l'impôt aujourd'hui.
Oui, sur l'IFI plus précisément. Vous savez, l'impôt sur la fortune immobilière, l'ex-ISF qui a été, lui, supprimé par le gouvernement. Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, que payent les riches?
Eh bien, ils payent 1,3 milliard d'euros. C'est beaucoup moins que les 4 milliards que rapportait l'ancien impôt sur la fortune. Le montant total était connu, mais ce qui est nouveau, ce sont les précisions qu'on a sur le portrait robot des contribuables assujettis à ce nouvel impôt sur la fortune immobilière. Ils sont très précisément 132 722 à l'avoir payé l'année dernière. C'est là aussi nettement moins que le nombre de contribuables soumis à l'ancien ISF. Âge moyen 68 ans, patrimoine immobilier compris entre 2 millions et 2 millions et demi d'euros. Il s'agit de personnes qui vivent souvent, c'est logique, de revenus fonciers, de loyers ou de rentes. À peine 19% d'entre eux sont salariés. Quelques-uns, 6%, ne vivent pas en France. Il s'agit soit d'étrangers, soit de Français vivant à l'étranger.
Fabien Cazot, chef du service économie de France Inter, merci. Il y aura donc un procès, Sarkozy, on l'a appris cette semaine dans l'affaire des écoutes, tous les renvois ont été rejetés, mais il y aura aussi un livre Sarkozy, Passion, c'est son titre, tiré à 200 000 exemplaires. Nicolas Sarkozy raconte sa vie avant le pouvoir, sorti le 27 juin pour ceux que ça intéresse. Et la droite pendant ce temps-là, c'est toujours, cherche chef désespérément qui pour prendre la succession de Laurent Wauquiez. Une première candidature officielle sans surprise, celle de Christian Jacob ce soir, patron des députés LR à l'Assemblée nationale. Son interview à lire sur lefigaro.fr. Les associations d'aide aux mineurs sont arrivées au bout du bout dans la Drôme. Elles lancent un appel au secours. 500 dossiers de mineurs en difficulté sont toujours en attente au tribunal pour enfants de Valence. Les associations ne sont plus payées depuis 8 mois. Il manque 3 greffiers au tribunal pour enfants. 2 sont en burn-out. Résultat, les avocats du barreau, eux non plus, ne touchent plus rien. Des avocats qui attaquent l'État en justice pour dysfonctionnement. Une chercheuse est morte cette semaine semaine de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Aujourd'hui, sa famille porte plainte contre l'Institut National de Recherche Agronomique, l'INRA. C'est là qu'elle travaillait et qu'elle aurait été contaminée en 2010. L'unité de recherche en virologie et immunologie de Jouy-en-Josas n'était pas suffisamment sécurisée selon ses proches. L'INRA, pour sa part, confirme un accident de service. En bref, encore 14 kilos d'héroïne saisie dans la région de Saint-Nazaire. Énorme trafic de stupéfiants démantelé avec 26 interpellations. Et puis Saint-Nazaire, mais aussi Nantes et surtout Angers ou encore Cholet, la terre a tremblé ce matin, 5,2 sur l'échelle de Richter. L'épicentre dans le Maine-et-Loire, pas de blessés et pas d'impact, rassure EDF cet après-midi sur la centrale nucléaire de Chinon. Ça ne vous aura pas échappé, ça a déjà commencé par endroits, en bas de chez vous ou peut-être sous les fenêtres du bureau, il y a de la musique dans l'air. Et sur France Inter, comme tous les ans le 21 juin, on célèbre rien que le meilleur. À l'Olympia à Paris, retransmis sur l'antenne, soirée spéciale à partir de 21h ce soir. Mathieu Culeron, vous êtes en direct de l'Olympia, bonsoir. Mettez-nous l'eau à la bouche.
Et oui, dans un peu moins de 2 heures, c'est le rappeur Lomepal qui montera ici en premier sur la scène de l'Olympia. Son dernier album Janine est un immense succès. Il sera d'ailleurs sur la scène de Bercy le 18 novembre prochain. Dans un tout autre style, le groupe de rock belge Balthazar, lui, sera particulièrement remarqué cette année avec son dernier album Fever qui s'est classé directement numéro 1 en Belgique. Le Quatuor qui propose depuis les débuts des années 2000 un rock hybride, aérien et sophistiqué. Ils joueront juste avant Jungle, des londoniens eux repérés en 2014, un groupe qui développe une funk électro tout en finesse, une soul moderne qui fait d'eux l'un des groupes les plus scrutés du moment. Et puis la double lauréate des victoires de la musique, Janadead, viendra chanter son deuxième album Ready Yet. Janadead qui sera omniprésente dans les festivals d'été, des Eurocaennes en passant par Bourgard jusqu'aux Vieilles Charrues. Enfin, Clara Luciani viendra clore cette édition 2019 de la Fête de la Musique sur Inter. Mais comment ne pas avoir une pensée évidemment pour Philippe Sdard, moitié du groupe Cassius, qui devait être présent ici ce soir. Il attendait cet événement avec impatience avant ce tragique accident. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques jours de cette fête de la musique où pour lui, tout a commencé.
Tout simplement, je veux dire, avec Sleba en Savoie, j'avais 13 ans dans mon groupe de hard où je jouais la batterie là.
Bah ouais.
C'est la première fois qu'on a joué dans le jardin de mon pote. Et pour moi, ce truc de la fête de la musique, ça a été une sorte de libération, enfin un truc. Bon, là, c'est pas pareil, là, ce sera la fête France Inter, l'Olympia, donc ça va être quand même beaucoup
un plus
carré.
Un peu plus pro.
Voilà, à noter que pour rendre hommage à Philippe Sdard, ce soir, un concert de Cassius de 2006 sera rediffusé après les concerts ici à l'Olympia entre 00h40 et 1h du matin.
On y sera, Mathieu Culeron, et cette soirée spéciale Fête de la Musique à l'Olympia sur l'antenne d'Inter, présentée par le duo qui rock, Rebecca Manzoni et Didier Varro. Et puis aussi au téléphone sonne.
Ben oui, on va parler de la musique parce que figurez-vous que la musique nous fait du bien et c'est prouvé scientifiquement. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la vie en société. On va en parler. Alors surtout, appelez-nous pour en parler au 01 45 24 7000.
Enfin, je vous propose, Claire, de partir pour un défi. Le défi de Monte Cristo qui fête ses 20 ans ce week-end à Marseille. Le plus grand rassemblement d'Europe de nage en pleine mer. Une discipline olympique avec 5000 nageurs attendus dans différentes courses ce week-end. Une première mondiale quand même ce soir, une nage de 5 km. De nuit. Faut le vouloir pour nager pleine mer, pleine nuit. 50 participants, moi je dis c'est déjà beaucoup. Jacques Tusset en sera, c'est un homme de 55 ans qui est venu de Montpellier. Spécialiste de la nage extrême, Jérôme Val l'a rencontré.
C'est presque de la poésie. Une nage de nuit sur des longues distances change tous les repères, toutes les sensations et ça, Jacques Tusset ne s'en lasse pas.
Quand on nage de nuit, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'eau n'est pas polluée, lorsque nos bras bougent dans l'eau, il y a des petites bulles, on va dire, qui s'éclairent, qui en fin de compte sont le phytoplancton qui s'illumine et c'est vraiment très beau. C'est quelque chose d'agréable qu'on ne voit pas de jour. C'est agréable de nager avec les lumières des villes à l'horizon. C'est aussi agréable de nager quand il fait la pleine lune, quand la lune reflète sur l'eau à chaque respiration. C'est très, très beau à voir, justement, cette lune qui se reflète.
Jacques Tusset est un stacanoviste de la nage extrême. Il a son compteur 400 traversées, 20 000 km dans des eaux parfois tumultueuses. Il a découvert cette discipline à l'âge de 9 ans.
La nager, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et comme je dis toujours, nager en milieu naturel, c'est un sentiment de liberté et d'évasion. Voilà, on fait corps avec la mer et on pense à autre chose.
Le Montpelliérain a même sa spécialité. Relier les îles prisons au continent, Alcatraz à San Francisco, Robben Island en Afrique du Sud. Ce soir à Marseille, il partira du Château d'If, le célèbre cachot du comte de Monte Cristo, l'un des héros d'Alexandre Dumas.
À la poésie de la pleine mer, la lune. Voilà qui devrait parler à votre invité, Claire Sarvajan.
Ah ouais, François Gabart.
Bonjour.
Bonjour. Mais vous n'êtes pas un aquatique, d'après ce que j'ai vu. Vous êtes un aérien, c'est incroyable.
Ouais, j'aime bien être sur l'eau. En ce moment, j'aime bien essayer de voler au-dessus de l'eau. De temps en temps, faire un petit plongeon, mais jamais trop profond. Je ne suis pas hyper à l'aise dans l'eau.
Pas forcément envie de mettre la tête sous l'eau.
Non, mais c'est peut-être une façon de survivre à des fois des conditions un petit peu difficiles. Parce qu'en général, quand on fait du bateau, en l'occurrence, si on fait de la course au large en solitaire, comme son nom l'indique, au large, loin des côtes, c'est rarement une bonne idée de sauter à l'eau.
Voilà, de toute façon, on va reparler de tout ça, François Gabart, dans un petit instant. Merci pour ce journal, Hélène Roussel. En tout cas, une petite trempette, c'est pas du luxe, vu les conditions météo qu'on nous annonce, c'est tout de suite.
La météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Bonsoir Jean-Michel Golinski.
Oui, bonsoir Claire.
Canicule à l'horizon.
Eh, tout à fait, c'est la hausse des températures qui va faire la une des prochains jours. Alors déjà demain, les valeurs vont partout grimper de quelques degrés. Dimanche, le seuil des 30 sera atteint dans la moitié nord, il fera jusqu'à 35 au sud. À partir de lundi, la chaleur en dehors des côtes de la Manche et de l'océan va devenir caniculaire, généralement entre 32 et 36, puis 34 à 38 à partir de jeudi, voire localement 40 en Auvergne-Rhône-Alpes. Revenons à ce soir et pour la fête de la musique, qui sera sans doute arrosée par des orages entre l'est des Pyrénées et les Alpes. Des orages forts sur les 5 départements du centre-est maintenus en vigilance orange. Une activité orageuse qui va décliner ce soir, finalement quitter la France dans la nuit par les Savoies. Alors ce week-end, le soleil sera vaillant, sauf demain sur les régions les plus à l'est, avec un peu d'instabilité résiduelle qui va persister. Et puis dimanche, c'est sur la Bretagne que le temps sera le plus ombragé.
Merci beaucoup Jean-Michel Golinski de Météo France.